Monsieur Franks a dit que retourner aux assemblées, ça va être un plus grand défi que celui de nous arrêter, que celui que nous avons eu le 14 mars, lorsque on nous a demandé d'annuler toutes les assemblées. Mais lorsqu'on pense à tous les facteurs qui sont impliqués, pour revenir à l'Église, est-ce qu'il y a d'autres faits importants que nous, le peuple de Dieu, nous avons besoin de considérer? Nous avons entendu beaucoup de bons messages, de sermonnettes, pas seulement ici au bureau central, mais dans les églises locales aussi. Et ces aspects ont été discutés, mais est-ce qu'il y a d'autres informations que nous, le peuple de Dieu, nous devons considérer aussi face à cette pandémie dans le monde dans lequel nous vivons à présent? En posant cette question, je voudrais vous poser une autre question. C'est plutôt personnel, parce que ça va probablement différer d'une personne à une autre, et il y a plusieurs facettes, mais comment avez-vous réagi, comment est-ce que nous avons réagi à ce qui s'est passé, à ce qui se passe depuis ces trois derniers mois? Réfléchissez à cela. Comment est-ce que nous réagissons et comment est-ce que nous avons réagi aussi? Alors, c'est le présent et le passé aussi. Comment est-ce que cela a affecté votre travail, votre emploi, votre situation, votre santé? Et lorsque on regarde tous les différents aspects, nous réagissons tous différemment à ces situations. Pensez aux réactions humaines. Par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, et quelque chose de dramatique qui se passe dans notre vie, instinctivement, c'est de réagir d'une certaine manière. Et surtout si c'est dramatique. Bon, en général, c'est très émotionnel. On fait une faute au travail, on tape sur le bureau. Il y a quelque chose qui nous frustre, quelqu'un qui nous frustre ou qui nous met en colère, on répond avec une certaine agressivité. On a besoin d'un morceau de gâteau, on le prend, on le saisit et puis on le mange. Quelqu'un qui passe devant vous et qui vous fait une queue de poisson sur la route, on a tendance à appuyer sur le klaxon, et puis lui donner un geste pas toujours très agréable ou pas toujours très chrétien. Réaction. Nous autres humains, nous réagissons, nous avons des impulsions, nous réagissons la plupart du temps. Et la plupart du temps, nos réactions, nous y réfléchissons pas tellement. C'est en fonction de ce qui se passe autour de nous, nous réagissons. Ça se passe tous les jours, ça se passe toutes les semaines. Et souvent, nous ne sommes même pas conscients de ces réactions, elles sont instinctives en quelque sorte. La meilleure réaction, souvent, dans certains cas, est de pas réagir. Combien est-ce qu'il y a de personnes ici qui ont appris cette leçon? Nous ne la mettons pas toujours en pratique, mais est-ce qu'on doit réfléchir, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, etc. Ça, c'est l'expression en francophone, mais en France, mais... le mieux, souvent, c'est de ne rien dire, de ne pas réagir. Et je peux me souvenir de certaines occasions où j'ai réagi d'une manière que je n'aurais pas dû réagir de cette façon. Alors, reconnaître ce fait, cette situation, là, nous pousse à nous dire que souvent, nous devons faire une pause. Prendre du recul, en quelque sorte. C'est le titre de son message aujourd'hui, prendre du recul, prenez du recul. Et nous avons besoin de faire cela, souvent. C'est souvent la réaction la plus positive. Je voudrais vous demander, et nous demander à nous tous, de prendre du recul. Prendre du recul. Cette expression du XXe siècle s'appuie sur l'image de quelqu'un qui recule pour avoir un regard plus large sur ce qui se présente à lui. Ainsi, prendre du recul signifie aborder une chose différemment et souvent avec plus d'ouverture. Et souvent, c'est donc quand on prend du recul, on a une autre perspective des choses. et nous avons besoin de faire cela face à ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis 3 mois. Et je voudrais que vous pensiez à toutes ces choses. Mais prenons du recul face à tout ce qui s'est passé. La première chose que je voudrais couvrir aujourd'hui, et nous passerons probablement plus de temps sur ce premier point ici, mais ce qui est le plus important ici, se souvenir, c'est pas quelque chose de nouveau. Monsieur Franks a même fait allusion à cela pendant les annonces, et Monsieur Everett a aussi parlé un peu de cela. Mais ce dont il faut se souvenir premièrement, c'est que Satan est encore le Dieu de ce monde. Il est toujours le Dieu de ce monde. Il n'a pas été remplacé encore. Il est encore le Dieu de ce monde. Et nous avons besoin de nous souvenir de cela. Et quelquefois, dans des situations comme celles que nous avons connues, nous oublions cela. Alors, je voudrais vous demander de prendre du recul. Et face à tout ce qui se passe dans le monde, prendre du recul. Et essayer d'avoir une perspective que les autres n'ont pas. Parce que nous avons une compréhension de cette vérité, de qui est le Dieu de ce monde et comment il affecte ce monde. Le restant du monde ne comprend pas cela. Et cette pandémie dans laquelle nous nous trouvons a pris le monde par surprise. Nous aussi, dans une certaine mesure, mais cela a pris les gens par à l'improviste, en quelque sorte. J'ai pris un voyage avec Monsieur Baker en janvier, juste avant, et lorsque le virus a commencé, eh bien, nous étions en voyage avec Monsieur Dave Baker et moi, et ça nous a pris à l'improviste, je voudrais dire. Les présidents, les premiers ministres réagissent différemment face à cette situation. Ils ne savent pas trop quoi faire, quel équipement utiliser. Et nous, dans l'Église, lorsque nous pensions au budget, au budget pour 2020, M. Franks, M. Kahl et M. Teller et moi, le conseil d'administration, quand nous préparions le budget, nous ne pensions pas à cela. Ça nous a pris à l'improviste. Ça nous a pris tous à l'improviste. Nous n'avions pas prévu cela. Et nous ne savions pas que nous aurions une assemblée comme ça pour tout le monde, par web division. Bon, c'était une bonne décision que nous avons prise, mais ce n'était pas facile. Il a fallu que nous, en tant qu'Église, nous réfléchissions à ce qu'il fallait faire. Et vous, comment est-ce que nous allions réagir face à cette situation? Il a fallu prendre du recul. Comment est-ce que cela fonctionne? Mais Satan est impliqué dans tout cela. Et nous avons tous, chacun, une histoire à raconter, en quelque sorte. Mais quel est le point de vue de Satan dans tout cela? Comment est-ce que cela l'a affecté, lui? Est-ce que cela l'a pris à l'imprévu, lui? Est-ce que ça l'a pris à l'improviste, lui aussi? Ou alors, est-ce qu'il se demandait comment réagir lui-même face à toute cette confusion? Est-ce qu'il était inquiet de ce qui se passait? Sur quoi est-ce qu'il se concentrait? Est-ce que Satan connaissait la vérité d'où ce virus a originé, a commencé? Oh, ça occupe l'esprit de beaucoup de personnes, mais lui est-il confus? Se soucie-t-il de la famine, de la division, les accusations, etc.? Est-ce que cela l'inquiète? Les droits, etc., dans tous les pays, de pouvoir s'assembler, etc. Est-ce qu'il s'inquiète? Est-ce qu'il s'inquiète de ça? Je pose une question, probablement vous me dites, non, je ne pense pas qu'il s'inquiète de ça. Moi, je dirais plutôt qu'il est l'auteur de ces choses. Et malgré tous nos efforts pour contenir ce virus, il a un impact que cela sur la société. Il y a un être qui, lui, sur cette terre, et qui est très au courant de ce qui se passe, Satan est défini de bien des façons. Il est plein de violence, de fierté ou d'orgueil, et c'est un menteur, il séduit les gens, et c'est un meurtrier, il crée le chaos, il est appelé le père du mensonge dans Jean 8, 44, et il est rempli de violence d'après Ézéchiel 28, 16. Mais avez-vous réfléchi à cela au cours des trois derniers mois? Dans quelle mesure tout ce que nous voyons est-ce qu'il est responsable de cela? Combien de tout ce qui se passe a son origine dans Satan et tous ces démons qui sont dans les millions? Reportons-nous à 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, il y a un certain nombre de passages à sujet de Satan. Rappelez-vous, frères et sœurs, je vous ai demandé de prendre du recul. Et ce faisant, l'idée, c'est d'essayer de ne pas penser comme le monde pense et réagit, de ne pas avoir les mêmes réactions, mais de nous élever au-dessus de tout cela, de toutes ces disputes, de cette division. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons la possibilité de faire cela. Nous pouvons prendre du recul et regarder les choses différemment du monde. Alors, 2 Corinthiens 4, et Paul dit ici, il fait une déclaration à propos de Satan, verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Pour le monde des inconvertis, il parle des inconvertis. « Pour les incrédules dont les yeux de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Satan est le Dieu de cette ère, Dieu de ce siècle. Et son influence est partout. Il a aveuglé. Ils ont été aveuglés, c'est cela que Paul dit ici. Et comme Monsieur Edward disait dans sa sermonnette, quand nous voyons les choses à la façon de Dieu, nous voyons les choses de façon totalement différente. Satan a aveuglé le monde en quelque sorte. Et quand on pense à l'aveuglement, parlé de Helen Keller dans un de mes sermons il y a quelques semaines sur Helen Keller qui était aveugle. Mais la plupart de ceux qui sont aveugles savent qu'ils sont aveugles. Il y en a qui sont partiellement aveugles, ils sont nés comme ça, ils ne savent pas exactement ce que c'est que la vision normale. Mais la plupart de ceux qui sont aveugles, ils le savent. Mais l'aveuglement dont il est question ici n'est pas un aveuglement physique. Le monde ne voit pas la lumière comme nous la voyons, mais spirituellement parlant. Et le pire aveuglement, c'est quand on pense voir. On pense qu'on voit les choses, on pense qu'on comprend, on pense qu'on a la sagesse nécessaire. On peut regarder cette question de prendre du recul de plusieurs angles, en quelque sorte. On ne voit pas la forêt parce qu'on a le nez sur un arbre, par exemple. Tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Il est intéressant que on sait ce que ça veut dire. Il y a ceux qui parlent du sujet de prendre du recul pour voir le plan d'ensemble. Et il y en a qui appellent ça l'aveuglement de la proximité. On sait ce que c'est que la proximité. Là, on sait voir les choses où on est. Alors, on est là, mais vu qu'on est là, mais on regarde juste ce qu'il y a autour de nous, on ne voit pas ce qu'il y a plus loin, ce qu'il y a au-delà. Et cela peut nous arriver à nous aussi dans l'Église. Et ça a un impact sur la société. Et Dans Apocalypse chapitre 12, il nous est rappelé que l'apôtre Jean ici, c'est lui qui parle, c'est ce qu'il peut voir dans une vision, ce que Christ a pu lui montrer dans cette vision. Et il voit quelque chose qui est rendu très clair ici, dans le 12e chapitre, c'est qu'il y a ce grand dragon, il le voit. Apocalypse 12, 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Il n'y a aucun doute de qui il s'agit. C'est celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Il faut se souvenir de cela. Et nous devons nous en souvenir tout le temps. C'est que la déception de ce temps, c'est pas seulement juste une partie de la terre, hein. C'est toute la terre. Alors on dit, ah bon, il y a des cultures qui sont plus séduites que d'autres. C'est vrai qu'il y a des personnes avec qui Dieu travaille, c'est vrai, mais lorsque nous regardons l'histoire de ce monde, les divers kingdoms, les divers royaumes, pardon, les empires, à travers l'histoire, quand on voit les diverses cultures, même les cultures qui existent encore aujourd'hui, les religions qui existent encore aujourd'hui, même celles qui prétendent représenter le christianisme, quand on voit toutes les fausses prémices, quand on voit qui est Dieu, par exemple, etc. Quand on lit ce passage dans l'Apocalypse, on a besoin d'être rappelé que le monde entier est aveuglé. Séduit. Tout est séduit, même s'il y a certaines personnes qui ont des points de vue différents, et il y en a peut-être qui sont plus violents que d'autres dans leur point de vue, ils sont tous séduits malgré tout, et c'est par dessein. Satan, Lucifer, c'était son nom avant, c'était Lucifer, et on parlait de ce plan de Dieu dont j'en parlais avec les étudiants. Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Je me disais, mais combien parmi vous voudraient appeler votre fils Lucifer? Personne ne voudrait appeler son enfant Lucifer. Pourquoi? Parce que cette implication de qui était Lucifer? Lucifer, c'était l'astre brillant, l'étoile du matin, etc., ou un porteur de lumière, son nom à l'origine. Mais Douglas, mon nom, ça veut dire, c'est proximité des eaux sombres ou noires. Je suis content que ma mère m'a pas appelé Lucifer, mais nous sommes touchés par les noms. Ce nom, bon, c'était son nom à l'origine, c'était un beau nom, mais qu'est-ce qu'il est devenu, donc? Ça fait 6000 ans qu'il a l'habitude d'avoir affaire avec l'humanité. Il a façonné le système de croyance de millions d'individus. Il a pris de l'expérience pendant ces 6000 ans. On se souvient de ces événements clés dans l'histoire, comme la tour de Babel, mais il travaille depuis tous ces siècles. Ça fait 6000 ans qu'il travaille pour influencer l'humanité, de lui donner de la colère, de la violence, etc., etc. Créer le chaos, la destruction, confusion, chaos, et il a créé tout cela dans le monde. Et nous nous trouvons, nous qui vivons au 21e siècle, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, et nous regardons l'histoire, nous lisons ce qui s'est passé dans l'histoire, et nous voyons que Satan a eu du succès dans ces systèmes de croyances. Nous comprenons cela. Mais lorsque nous regardons ce passage, nous voyons que Satan, son plan de déception agit sur des plans, toutes sortes de plans, à tous les plans. Apocalypse 12 maintenant. C'est pourquoi réjouissez-vous. Apocalypse 12, c'est une sorte de chapitre qui est une parenthèse dans l'Apocalypse, mais il est écrit ici. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je voudrais parler de cette déclaration par rapport à cette question, de cette déclaration, ou plutôt à cette demande que je vous ai faite de prendre du recul par rapport à cette révélation. Satan sait qu'il a peu de temps. Il sait très bien, il est au courant, et il connaît très bien la chronologie du plan de Dieu. Il sait qu'il a peu de temps. Combien de temps, vous et moi, avons-nous? Avant, nous ne savons pas. Ça fait pas mal de temps que nous posons cette question. Le 11 septembre 2011, je me suis posé la question aussi, combien est-ce que nous avons de temps, hein, lorsque nous avons eu la destruction de ces tours ici à New York. Enfin, comme si j'avais une certaine connaissance du temps. Mais est-ce que c'était réellement le début de la fin? Les choses ont changé, ça a été une période intéressante depuis, mais ça a été une culture de voyage, et puis de fermeture de frontières. Depuis ces 19 ans, quand cette pandémie a touché l'impact géopolitique, nous nous sommes probablement posé cette question. Ce passage montre ici que Satan et ses anges déchus, ils ont une compréhension du plan de Dieu. Et je ne suggère pas qu'ils en savent plus que nous, pas nécessairement, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'ils sont au courant du fait qu'ils ont peu de temps. Dans le livre de Jacques, il est question de Jacques dit que les démons sont au courant de Dieu, ils croient en Dieu, hein, et ils tremblent. Donc ils ont un certain nombre de ils ont certaines connaissances. Alors tout est situé autour du plan de Dieu en quelque sorte. Premièrement, Matthieu 16, il est question de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Nous allons faire partie de ce royaume et cela, c'est tout pour Dieu. Bon, nous ne parlons pas réellement du royaume de Dieu pour le moment, de son plan, dans le sens de ce à quoi nous nous concentrons aujourd'hui. Mais Satan est toujours le Dieu de ce monde, pour le moment. Quel est son plan? Quels sont ses plans, en quelque sorte? Si j'étais avec 50 personnes, probablement vous auriez, vous parleriez de tous différemment, peut-être des plantes. Il ne se souciait pas du baseball, hein, qui va redémarrer des équipes, des championnats. Il ne s'inquiète pas des championnats. Il ne se soucie pas de ça. Il ne se soucie pas des courses automobiles, de NASCAR ici aux États-Unis. Ça a pris des proportions internationales, ces courses automobiles finalement. Mais lui, il ne s'inquiète pas de ça. Il ne s'inquiète pas du vaccin pour le virus. Mais qu'est-ce qui occupe son esprit en quelque sorte le plus à ce moment? Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous réfléchi à ça? Pensez-vous qu'il évalue un peu ce qui se passe sur la Terre? Est-ce qu'il écoute les conférences de presse de la Maison Blanche? Qu'est-ce qui fait l'objet de ses pensées quand on s'inspire de Matthieu 4? Reportons-nous à Matthieu 4. Matthieu 4, verset 8. Matthieu 4, verset 8. C'est Satan cherche dans ce passage, hein, rappelez-vous, hein, à détruire Christ. Hein, il cherche à le détruire. Alors Christ, il jeûne pendant 40 jours et 42. Et il l'a fait pour une raison. C'était après cette période de temps de jeûne que Dieu a permis à Satan de l'attaquer. hein, de le tenter. Mais et lui, si réellement le Fils de Dieu, fait que ces pierres deviennent du pain. Vous connaissez tous, vous savons tous ce que Christ a dit là. Et Christ lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Satan lui fait une offre, hein, il fait un marché en quelque sorte, il essaye de faire un marché. Et j'espère que lorsque nous lisons des passages comme cela, nous ne simplifions pas outre mesure ce qui s'est passé, mais que nous prenons en quelque sorte du recul, hein, pour réfléchir et savoir ce qui se passe ici. Et c'était crucial, la réponse de Christ. Satan lui offre les royaumes de ce monde. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, regarde ce qu'il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ce qui est intéressant ici, tous ces royaumes et toute leur gloire, c'était à lui. C'est à lui et il pouvait lui donner. C'est toujours le cas. Christ n'a pas dit, non, tu n'as pas le pouvoir de me donner ça. Non, il n'y a aucune raison que Christ disait ça. Christ savait que c'était à Satan, que son influence était sur ce monde, que son influence était telle qu'il pouvait lui donner tout. Qu'est-ce qu'il avait présent à l'esprit comme organisation, etc. On ne sait pas. Nous ne devons pas nous séduire en pensant qu'il y avait une possibilité que Christ aurait pu laisser tomber ou succomber. Et ces royaumes, c'est toujours à lui, c'est toujours à Satan pour le moment. Il ne faut pas l'oublier. En 28 de notre ère, quand cela s'est produit, 28, 29, Satan a essayé de détruire Christ en tant que Messie. Le Messie, le sauveur de l'humanité, c'est ce qu'il essayait de faire. Il a fait tous ses efforts pour le faire. Il a fait tout ce qu'il a pu, tout ce qui était dans son possible. Mais quelle est la cible spéciale de Christ aujourd'hui, maintenant? La seule manifestation de Christ que nous ayons de Christ maintenant sur la terre, c'est ce que nous appelons, c'est dans le corps de Christ. Et Paul comprenait cela très bien. C'est là la seule manifestation de Christ qu'on a pour le moment aujourd'hui. Le corps de Christ, l'Église. Satan est tout à fait au courant de cette situation. Et comment est-ce qu'il va utiliser cette situation, tout le chaos, toute la confusion qui est créée par cette situation, les institutions, la crainte, la peur, les souffrances, comment est-ce qu'il va utiliser cela pour nous affecter, nous? Comment est-ce qu'il va utiliser ces choses pour nous toucher, nous les membres de l'Église? 1 Jean chapitre 5, et cela réitère ce que nous trouvons, ce que Jean comprenait à propos de Satan. 1 Jean 5, 19, et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et c'est une autre description que le monde entier est sous la puissance du malin, de Satan. Le but de Satan, et nous pourrons décrire ça avec des mots différents les uns les autres, mais pour ce message, la division et les soulèvements politiques et sociaux dans notre pays et dans le monde, je ne pense pas qu'ils se soucient réellement de ce que font ces divers partis. socialistes, démocrates, républicains, etc., et qu'ils croient en Dieu ou pas, je ne pense pas que Satan se soucie de ça. Qu'ils aient une fausse conception du vrai Dieu, Satan est toujours séduit. Satan séduit toujours le monde. Il a ce monde exactement où il le veut. Et comment est-ce qu'il peut mettre le monde sur arrêter le monde sur la même vitesse? Est-ce qu'il peut arrêter le monde à un certain niveau, à une certaine vitesse? D'après ce que nous lisons dans les Écritures, il a ce monde où il le veut. C'est pas un endroit, c'est pas dans un camp, c'est pas dans une opinion. Ça n'a rien à faire avec les gouvernements, etc. Mais il a tout ce monde à sa merci. En Asie, avec les dirigeants en Asie, dans ce pays, les dirigeants dans les pays israélites, les gens qui souffrent de maladies, qui sont dans les guerres, il les a exactement où il veut. Ceux qui sont éduqués, qui ont une bonne culture, qui gagnent bien leur vie, ceux qui enseignent la théologie, et je dirais, et même les complots, il y a des gens qui pensent à ces complots un peu partout, mais et vous savez quelle est la définition d'un complot? C'est un plan qui est fait en secret pour des desseins, des desseins iniques. Je pensais ce matin en réfléchissant, c'est ce que Satan fait. C'est ça que Satan est impliqué. Il est impliqué dans un complot. Et c'est réellement ce qui est important pour nous, ce qu'il faut comprendre pour nous, le peuple de Dieu. Si Satan a ce monde dans la situation qu'il veut, est-ce qu'il nous a, est-ce qu'il nous a, nous, où il veut? Espérons que non. Satan ne nous a pas où il veut, nous, les membres. Mais si nous voulons être honnêtes, en tant qu'êtres humains, nous devons nous rendre compte que nous sommes encore chair et sang, et que nous sommes encore charnels. Et donc, nous devons être prudents. Nous avons tous nos défauts. Et je sais que moi, certainement, j'ai toujours mes défauts. Mais est-ce que Satan nous a où il veut, nous, en tant qu'Église? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. On peut dire, à Pierre 5, Satan est comme un lion rugissant qui cherche, qu'il dévorera. C'est une métaphore, hein. Mais il cherche ce qu'il veut, mais il veut nous dévorer. C'est un peu effrayant comme image, mais il y a des histoires de lions qui ont pris le goût de la chair humaine et qui ne peuvent plus manger que des chairs humaines. Mais son but à lui, son objectif, c'est diriger, de confondre l'humanité. Bon, il va continuer à faire ça. Il les a où il veut, mais il veut son système. Son système, c'est qu'il toute cette hiérarchie, et il veut garder ce monde où il veut. Donc je pense que ce qui se passe dans les sphères spirituelles des démons, il y a toujours une certaine organisation là-dedans qui se passe, mais je ne pense pas que Satan veuille se concentrer sur l'Église, ou sur le fait qu'il veuille se concentrer sur l'Église soit nouveau. C'est pas nouveau, mais ça fait 2000 ans qu'il essaye d'affecter l'Église. Mais d'après ce que nous voyons ici, il cherche toujours à nous influencer. Il veut confondre et détruire la seule entité dans son royaume, la menace à son objectif. Nous le sommes. Ce n'est pas la Corée du Nord, c'est pas la Russie, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Europe, c'est pas cette pandémie. Ce n'est pas un autre pays ou une nation rebelle, un groupe rebelle de peuple qui a accès à des armes nucléaires. Non. Il est plus puissant que toutes les nations rebelles. Il est bien plus puissant que cela. Et son objectif, c'est justement d'atteindre ses objectifs. Sa cible, c'est l'Église. La cible de Satan, c'est l'Église. Le monde est là où il veut, mais nous, c'est autre chose. Je sais, ça a été mentionné avant, mais le seul groupe de gens qui représentent le vrai Dieu, qui font l'œuvre du vrai Dieu, c'est de proclamer l'évangile de Christ au monde, la bonne nouvelle, et préparer le peuple de Dieu, ce que Dieu appelle. Ça, c'est la tâche de son Église. Et ça, c'est l'ennemi de Satan. C'est son seul ennemi. Luc 22, verset 31. Dieu dit cela à Pierre. Il savait cela. Il faisait allusion à certains événements. Christ, à certains événements dont il était tout à fait au courant. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Le mot, c'est vous ici, c'était pas juste pour Pierre. Dans le grec, c'est bien ça, c'est vous, plusieurs. Hein, tous les disciples. Il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et Christ connaissait, il savait cela au début de l'Église. Il savait qu'il faudrait qu'il soit fort. Mais là, il encourage Pierre pour qu'il puisse affermir ses frères ici. Il savait que Satan serait après le peuple de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est son effort, non seulement pour créer le chaos, la confusion dans ce monde, mais aussi, et cela va peut-être augmenter à des niveaux formidables, mais nous devons comprendre qu'il y a un autre niveau ici. Est-ce que c'est une coïncidence a touché surtout à l'époque de la Pâque? Est-ce que c'est une coïncidence que ça a touché le plus à l'époque de la Pâque? Nous, l'Église, c'est à ce moment-là de l'année que... Est-ce que là que c'est une coïncidence que cela, ce virus nous a touchés tous à ce moment-là? Je ne pense pas que ce soit nécessairement un complot particulier, mais je pense que c'est important que Satan va faire tout ce qu'il peut pour nuire à l'Église. Il passe par la porte, par l'arrière, la porte arrière, pas par la porte arrière. Il se sert souvent, vous savez, il a déjà prévu certaines choses, il anticipe un certain nombre de choses. Il essaye de nous attirer vers le ring. Ça, c'est une analogie, évidemment, encore à nouveau. Alors, il remue tout. Il remue dans la mesure où nous lui permettons aussi de le faire aussi. Alors, nous devons reconnaître ça. Satan est toujours le dieu de ce monde. Alors, Dieu va nous enseigner de manière plurielle, inattendue. et nous devons à nouveau prendre du recul pour comprendre cela. Il va agir avec nous de manière que nous ne connaissons pas. Et on m'a dit il y a un certain nombre d'années que, et je n'ai jamais oublié parce que ça m'a réellement affecté, cette description de Dieu. Dieu est le parent parfait. Dieu le parent parfait. On m'a dit ça il y a des années et j'étais frappé par ça et je l'ai répété. Je répétais, c'est vrai, Dieu est le parent parfait. J'ai jamais oublié ça. Par exemple, quand on regarde l'Écriture, et c'est très encourageant, psaume 103, verset 13, reportons-nous, hein. Psaume 3, verset 13, il est écrit, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et dans ce passage, il est question de la compassion de Dieu. On sait qu'il l'est. On prend des exemples, par exemple, Luc 15, où les questions de la parabole du fils prodigue. Qu'est-ce que ça révèle à propos de Dieu, de sa compassion? Matthieu 6, dans la prière, lorsqu'il nous dit comment prier, notre Père. Il n'est pas question de notre ultime dirigeant, non? Bon, c'est vrai, d'accord, mais ici, dans notre prière, nous devons prier notre Père. Notre Père. Et dans Matthieu 7 et Jacques 1, il est écrit que le Père donne de bonnes choses. Il fait tout ça. Pourquoi est-ce que je parle de ces choses? C'est parce que Dieu est un parent parfait qui nous enseigne de manière inattendue souvent. Il y a des valeurs que nous devons enseigner à un enfant de 5 ans. Il y a des personnes qui ont appris cela aussi en voyant le développement des enfants, mais celles que nous enseignons à nos enfants du début à l'âge à 5 ans, il y a des valeurs fondamentales qui doivent rester en eux toute leur vie. Il y a des valeurs comme l'honnêteté, la justice, la détermination, la considération pour les autres. Alors, l'honnêteté, la justice, la détermination, la considération des autres et l'amour, tout cela, ça, les psychologues disent que ce sont les parents qui sont les enseignants principaux dans tout cela pour enseigner ces valeurs humaines. Bon, évidemment, il y a d'autres valeurs aussi, je parle de cela à propos de Dieu qui veut nous enseigner et nous devons, surtout à des moments comme ceux que nous connaissons aujourd'hui, avec toute cette incertitude, non pas à propos de ce que nous croyons en tant qu'Église, mais comment est-ce que cela va nous affecter, parce que c'est une bonne question à nous poser, comment est-ce que cela va nous affecter? Mais nous savons certaines choses, nous savons ce que Dieu entend avoir comme résultat. Et Dieu a fait un certain nombre de promesses pour ses enfants, mais pour ce qui est de... combien d'enfants de 5 ans diraient à leurs parents, « Papa, enseigne-moi l'honnêteté, la justice. » Nous, quand nous prions Dieu, est-ce que nous demandons à Dieu de nous former, de nous enseigner, de nous former? Nous devons demander Dieu qu'il soit impliqué dans notre vie, pour que nous sachions les choses que nous devons apprendre. Il sait si nous sommes sincères ou non. Il connaît la différence, il sait la différence entre les deux, il sait si nous sommes sincères. Si nous sommes réellement sincères, il va nous enseigner, il va nous montrer, et il va répondre ou exaucer cette prière, parce qu'il s'agit du développement de l'un de ses enfants. Mais il sait aussi que ce développement dépend beaucoup de ce désir en nous de vouloir changer. d'être élevé à ce niveau. Donc, cette relation avec, avec notre Père est très importante. C'est quelque chose, peu importe notre milieu social ou économique, Dieu sait qui il a appelé. Et c'est que si un individu veut réellement croître, il va donner des occasions pour le faire. Sa méthode de le faire, nous ne savons pas toujours quelle forme ça va être. Est-ce que ça va être une sermonnette, un sermon, une étude biblique, un article, la lecture de la Bible, je dirais, c'est probablement cela, surtout en général, que Dieu nous éduque. C'est comme cela qu'il nous éduque et nous forme, avec les illustrations dans la Bible. Oui, c'est cela, c'est vrai, oui, il le fait comme cela. Ce sont des fondements. Et pour cela que nous apprenons beaucoup de choses en lisant la Bible et par ces outils dont je viens de parler. Mais ce n'est pas là que ça s'arrête. Par l'expérience, Dieu nous apprend aussi beaucoup d'autres choses. Et l'expérience, et nous devons la vivre après cette connaissance. Et Dieu permet que nous traversions certaines expériences, que nous trouvions dans des situations que nous n'attendions pas. Il y a des leçons qui sont là pour nous. Je parlerai de Job, mais à la fin du livre de Job, Job, c'était un serviteur dévoué de Dieu, et à la fin il dit, j'ai entendu de mes oreilles, mais maintenant mes yeux voient. Et je pense que nous avons tous été dans les mêmes situations, nous pensions connaître quelque chose, que ça soit sur nous-mêmes ou la vie en général ou pour Dieu, etc., et nous l'avions entendu, mais il y a un moment où Ça y est, on a compris, on a vu. Et Moïse, même chose. Et Saul et Paul, qui étaient des serviteurs de Dieu. La plupart de ce que nous lisons dans les Écritures, c'est des questions d'expérience, de ce qu'ils ont vécu. Je parlais de Saul aussi, qui est devenu Paul, par son expérience sur le chemin de Damas. Et Dieu a donné à ces individus des expériences précises pour leur enseigner quelque chose. Et il fait souvent cela avec son peuple. Et je dis avec la plupart d'entre nous aujourd'hui. C'est comme cela. Dans Genèse 45, il y a une histoire que nous connaissons tous. L'histoire de Joseph. Je trouve l'histoire de Joseph fascinante. Je l'ai lu des quantités de fois, mais c'est fascinant. C'est une histoire chargée d'émotions. Et quand on pense à la chronologie, Dieu a travaillé avec lui sur des années, un certain nombre des années. Joseph est vendu par ses propres frères en tant qu'esclave. Et après. Nous lisons ce que nous allons lire ici, je suis certain que pendant cette décennie ou plus, il y a eu des moments très difficiles. Il n'a pas perdu sa foi en Dieu, mais il y a eu des moments où il y a ce moment très touchant dans Genèse 45, verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il savait qu'il devait se faire connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Il ne pouvait pas contenir ses émotions avec toutes ces années qui étaient passées, hein, l'aveuglement de ses propres frères. Mais ce que je veux faire comme remarque ici, c'est que qu'est-ce que Dieu faisait avec Joseph? Joseph probablement ne comprenait pas avant. Mais après, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent, il dit, « Je suis Joseph. » C'est incroyable quand on y pense. « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Je pense que c'était la dernière chose que ses frères pensaient entendre. Mais maintenant, là on voit la main de Dieu dans tout cela, d'une manière que ses frères ne connaissaient pas. Et Joseph lui-même n'avait pas compris. Mais il comprend maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni boisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ça, c'est un récit fascinant qui montre que Dieu agit. Nous avons tous des situations, pas à ce niveau, mais nous avons tous des situations dans nos vies où on voit que Dieu a agi avec nous. Et lorsque nous prenons du recul à nouveau pour voir ce qui s'est passé, nous devons garder notre concentration sur notre responsabilité en tant que membre, en tant qu'Église. L'appel qui nous a été donné, nous ne devons pas perdre de vue le fait que, maybe, Dieu travaille à d'autres choses aussi, à d'autres expériences qui vont nous bénéficier en tant que son peuple. Ne pas perdre de vue de cela, parce que quelquefois, on peut perdre cela de vue, comme tout le monde autour de nous perd de vue. Nous ne voyons pas toujours ce que Dieu accomplit, mais nous devons avoir les visions. Et cela me guide vers le dernier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est que Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Face à cette pandémie, combien de personnes se soucient de vous-même, de votre famille? Combien parmi nous se soucient de notre situation? Je pourrais dire que nous tous, nous sommes souciés, que ce soit notre travail, notre situation, notre santé, diverses circonstances. L'idée que Dieu puisse nous abandonner est effrayante. Récemment, je regardais quelque chose sur une organisation qui s'occupait des enfants abandonnés. Et il y avait plusieurs exemples. Je regardais ça à la télévision. Imaginez 9 enfants chez vous et assez de nourriture pour en garder 7 en vie. Sinon, vous risquez la malnutrition ou la maladie ou la mort et que vous devez en sacrifier 2 pour garder les autres en vie. Les réfugiés sont tentés d'abandonner une fille en dehors du camp en espérant qu'un étranger va s'occuper de lui. Il y a un enfant qui est pris par sa maman à une station d'autobus. Il emmène son enfant et puis il lui donne une bouteille d'eau et lui dit « Je reviendrai, je le promets, avec une seule bouteille d'eau ». Et elle ne revient jamais. Et l'enfant, un enfant de 5 ans, s'imagine où est maman. C'est difficile d'imaginer, de réagir ça. C'est horrible. Mais ça me rappelle, il y avait 19 ans à peu près, nous sommes allés à un orphelinat à Kumasi, dans le Rwanda. Il y a un projet avec des jeunes adultes et nous étions âgés. Kumasi, c'est une grande ville en Afrique et Tout ce que je veux dire, nous sommes allés comme visiteurs dans la cour et nous regardions dans la possibilité d'aider en tant qu'Église. Et il y a des gens qui sont venus tout de suite vers nous. Et ma femme a eu un petit garçon qui s'est accroché à sa jambe et puis elle ne lâchait pas prise. Et le directeur de l'orphelinat dit avant que l'entrions, ces enfants, ils n'ont aucun contact humain. Et ils vont voir un visage et ils vont croire que vous êtes là pour les prendre. Ils vont vouloir que vous soyez là et que vous les preniez avec eux. Et ma femme n'a pas pu tenir plus de 2 minutes. L'idée, elle a fondu en larmes, et l'idée aussi, ça m'émeut beaucoup. Cette circonstance est répétée des milliers de fois chaque jour. Nous ne le voyons pas. Mais c'est quelque chose d'horrible, un enfant qui est laissé à un arrêt d'autobus comme ça. Mais Dieu, lui, ne ferait jamais cela. Dieu ne ferait jamais cela. Dieu est toujours là. Et psaume 68, je voudrais dire psaume 68, verset 4, est un des nombreux passages que David a écrit à propos de Dieu et de sa fidélité. Dieu garde sa parole. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Un psaume 145, un psaume que nous avons chanté ou que nous chantons. Psaume 145, l'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de l'Éternel. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Verset 17, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Il y a beaucoup de passages qui parlent de cela. C'est dans des moments comme cela que on a besoin de nous rappeler de ce que Dieu accomplit, de son engagement envers nous. Moïse, à la fin de sa vie, était au Mont Nebo, face à un pays qu'il n'allait jamais pouvoir voir à cause d'une erreur qu'il avait commise. C'était un moment triste dans sa vie. Mais il avait des mots pour ceux qui allaient il allait traverser le Jourdain. Il savait les royaumes gentils qu'ils allaient affronter, mais dans Deutéronome 31, verset 5, il dit « L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Ce sont des mots très puissants. Ce sont des mots qui ont été donnés à Josué, mais aussi à tous ceux que Josué allait guider. Mais nous ne vivons pas en 1400 avant notre ère. Nous vivons au 21e siècle. Nous ne nous apprêtons pas à traverser une rivière pour aller dans une terre promise. Nous attendons notre frère aîné qui va revenir avec son royaume. Hébreux 13, verset 5. Là, nous voyons l'apôtre Paul qui ne vous livrait pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alors, donc, à un moment comme celui que nous connaissons, nous avons besoin de prendre du recul. Nous avons de prendre du recul. Regardez le tableau d'ensemble. Hein, regardez le tableau d'ensemble. Souvenons-nous de ce que nous savons à propos de ce monde, de ce que le monde ne sait pas. À propos du monde, du Dieu de ce monde, et de ses œuvres, et de ce qu'il fait. Il confus, il crée la confusion, la division, et la destruction, le chaos. Et le monde l'ignore totalement. Nous devons nous souvenir de ce que nous savons à propos de Dieu, de son amour. Et comment il travaille avec ceux qu'il enseigne. Il travaille en nous, il agit en nous. Donc nous avons besoin réellement de nous souvenir qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Prenons du recul.